Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On est au numéro 737, toujours du catéchisme de l'Église catholique, et il est écrit que la mission du Christ et de l'Esprit-Saint s'accomplit dans l'Église. Et cependant, une question se pose parmi beaucoup, c'est pourquoi peut-on trouver autant d'erreurs, de péchés dans l'Église si la mission du Christ et de l'Esprit-Saint s'accomplit en elle ?
Et de fait, il y a là une grosse difficulté qui a été de génération en génération, une pierre d'achoppement, je veux dire, de notre foi en l'Église. Les premiers credos disaient « je crois » en l'Église, et puis on a dit « je crois aussi à l'Église ». Les deux peuvent se tenir. Je crois en l'Église parce que c'est une réalité surnaturelle qui nous est donnée comme un cadeau qui nous fait remonter à Dieu lui-même, et je crois à l'Église qui est normalement un bon témoin de la vérité. Quand je dis dans l'acte de foi « mon Dieu, je crois fermement à toutes les vérités que tu nous as enseignées, que tu nous enseignes par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. » Donc, on a foi à l'Église, à ce qu'elle dit. Et de ce point de vue-là, je dirais, la doctrine est sans variation depuis l'origine. C'est vraiment une parole de vérité. Jésus lui-même l'a dit depuis les origines, comme il l'a dit à Pilate, « Je suis venu pour rendre compte de la vérité. » Et donc, au niveau de la continuité dans la vérité, il faut vraiment tenir que l'Église reste toujours dans sa mission. Par contre, effectivement, puisque le Christ attire à lui des pécheurs en route vers la sainteté, sans cesse on reprend cette parole du Lévitique « Soyez saints car je suis saint », malheureusement on constate très vite qu'on n'est pas saint du premier coup d'œil, même si on veut. Regardez la petite Thérèse, elle voulait être sainte et elle accumulait tous les mérites, et puis elle a compris un jour qu'elle n'y arriverait jamais et qu'il fallait la grâce. Et même rentrant au Carmel, elle continuait à se poser des questions. Jusqu'à un an et demi avant sa mort, elle se pose encore la question « Est-ce que le bon Dieu est content de moi ?» C'est la question qu'elle demande dans cette apparition qu'elle a dans un songe de sœur Anne de Jésus, qui est la fondatrice du Carmel, qui lui apparaît dans un songe. Et la seule question qui lui vient dans son cœur, c'est « Est-ce que le bon Dieu est content de moi ?» Et Anne de Jésus, heureusement, lui dit oui. Et ça l'a beaucoup rassurée. Elle a pu vivre son agonie avec tranquillité. Donc en nous, c'est une question permanente que nous garderons jusqu'à la fin de notre vie. Nous ne sentons pas toujours en adéquation avec cet appel à la sainteté. Pourtant, saint Pierre le répète dans son épître, « Soyez saints, car le Seigneur lui-même nous l'a dit, je suis saint. » Et cette sainteté est plutôt une tension vers le royaume définitif qui est le ciel. Et en attendant, on est toujours en situation de combat spirituel. Et donc notre sainteté, nous ne pouvons jamais la toucher. Et alors on comprend très bien qu'il y ait différentes étapes. On parle souvent de trois étapes dans la vie spirituelle. Il y a les commençants, les progressants, ceux qui arrivent à une certaine perfection, donc les incipientes, les progredientes et les perficientes. Mais tout ça, on voit bien que ce sont des étapes. Or, dans ces étapes, il peut très bien avoir la place pour des débutants pécheurs. Et donc, le corps du Christ, ici-bas sur la terre, je ne parle pas de ceux qui sont au ciel, qui sont déjà dans la sainteté, est un corps du Christ marqué par des milliers de faiblesses et des péchés même. Et donc, je comprends très bien qu'il est naturel que ce qui est faillible défaille quelquefois, comme disait saint Thomas d'Aquin avec beaucoup de justesse, mais cette faillibilité va même jusqu'au péché. C'est pas seulement une faillibilité naturelle, je dirais. Je me trompe, je bafouille, je dis une erreur, après ça je me corrige en disant mieux. Non, il s'agit même d'actes moraux qui peuvent être défaillants, c'est-à-dire portés au péché. Or, dans le corps du Christ, il y a des baptisés qui continuent à pécher. Et ça a été une découverte qui a été difficile à admettre dans les débuts de l'Église. Alors on comprenait qu'il y avait ce qu'on a vite appelé les peccadilles, ce qu'on a appelé les péchés véniels, c'est-à-dire de peu de poids, et on a compris que les sacrements ordinaires levaient ces péchés véniels, mais tout à coup on est arrivé à des péchés plus graves, c'est-à-dire des gens qui ont renié le Christ. Et l'Église s'est même divisée en deux parts à ce moment-là. Il y avait les donatistes qui étaient extrêmement intransigeants, qui disaient « ceux qui ont renié le Christ, on les appelait les lapsis, ils étaient tombés », c'est ce que signifie ce mot latin de lapsis, ils ne peuvent plus réintégrer l'Église catholique. C'est fini. Ils ont renié devant l'autorité romaine Jésus-Christ, ils se sont mis à adorer des faux dieux, l'empereur romain, c'est de l'idolâtrie, on ne peut pas revenir en arrière. Et par contre, l'Église catholique, avec tous les saints évêques, ont compris qu'il fallait au contraire accueillir ces personnes qui étaient tombées, qui avaient renié le Christ, mais qui étaient repentants, et que l'espace du repentir est toujours possible. C'est pour cela que Jésus nous dit « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Nous comprenons très bien que même dans le corps de l'Église, il y a des pécheurs, mais nous n'avons pas à les juger, nous avons toujours à prier pour qu'ils se convertissent. Ça ne veut pas dire qu'il y a la plus petite tolérance pour le mal, on doit toujours dénoncer le mal, saint Paul le dit explicitement, d'être promoteur du bien et de dénoncer le mal, mais de vaincre le mal par le bien. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui pêche, ben, je vais faire une prière pour lui, je vais faire un surcroît d'effort personnel de conversion en priant pour lui, pour demander sa conversion, pour demander sa croissance.
Le chrétien doit donc être prudent et pas prendre toutes les paroles du prêtre ou d'un évêque comme parole de Dieu. Mais est-ce qu'il ne risque pas un moment d'y avoir un doute en se disant est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est lui, le prêtre, qui le porte mais dans son péché? Ou est-ce que c'est un enseignement de l'Église? Comment on peut être plus rassuré face à ce sujet?
Alors ça, c'est une très très bonne question parce que, dans le fond, ça nous apprend les degrés d'autorité. Et le tout premier degré d'autorité, c'est la parole de Dieu. Et puis, il y a la tradition qui la porte, cette parole de Dieu. Et il y a le magistère de l'Église qui a des degrés. Là, comme on parlait tout à l'heure de degrés dans la vie de sainteté, il y a des degrés d'autorité qui engagent plus la vérité qui est proférée de la vérité qui est révélée. Le plus haut degré, ce sont les dogmes, par exemple, qui sont résumés dans le credo. Le credo de l'Église est totalement infaillible. Il dit la vérité tout entière. Et puis, en dessous, il y a des définitions. Par exemple, Jean-Paul II s'était engagé pour dire que le sacerdoce presbytéral, donc des prêtres, était réservé aux hommes masculins. Et c'était tout simplement un choix de Jésus qui s'était incarné de cette manière-là et pas d'une autre. Il y a des définitions qui sont presque des dogmes, qui un jour pourront devenir des dogmes, mais qui ne le sont pas tout de suite. Et puis il y a le magistère ordinaire de l'Église, qui est donc universel, et qui permet donc un enseignement dans lequel il y a plus de malléabilité, c'est-à-dire au cours des siècles, on peut avoir un magistère ordinaire, un magistère universel, qui puisse avoir encore quelques modulations, quelques précisions, et au cours du temps, eh bien, ce magistère ordinaire de l'Église doit s'approfondir. Et là, ce qu'on demande aux fidèles, et à chacun d'entre nous, c'est d'avoir un cœur déjà filial, c'est-à-dire d'accepter ce magistère ordinaire universel de l'Église, et de s'y soumettre autant que faire se peut, en respectant bien sûr notre conscience et en faisant en sorte que l'Église puisse progresser. C'est-à-dire, les théologiens ne sont pas tenus à la même rigueur par rapport au magistère ordinaire de l'Église. Ils peuvent, dans des revues spécialisées, sans aller sur les médias, sur les radios, sur les périphériques, sur les télévisions et autres, faire des critiques du magistère, mais ils peuvent, dans des revues spécialisées de théologie, exprimer leur point de vue et continuer à faire travailler le magistère pour qu'il aboutisse à une formule plus vérifiée. Puis tout en bas, Il y a le magistère authentique. Chaque évêque a le droit d'enseigner son peuple, je dirais, d'une manière tout à fait normale, autour de lui, dire un enseignement qui ne soit pas un magistère universel. Et puis, encore plus bas, il y a l'opinion. Un pape, par exemple, qui parle dans un avion, c'est une opinion. Ce n'est pas le magistère authentique, ni le magistère universel, encore moins, ni encore les hauts degrés. Donc il faut faire très attention, parce qu'évidemment, la plupart des médias, des journalistes, ne font pas les distinguos nécessaires et mettent tout au même niveau. Je me souviens, un jour, notre cher pape François voit un enfant qui pleure parce qu'il a perdu son petit chat, et il dit à cette petite fille, tu le retrouveras au paradis aussitôt, grand titre dans aux États-Unis, de dire le pape croit à la résurrection des animaux. Mais non, c'est pas du tout ça. Le pape disait un petit mot de consolation, et d'ailleurs c'est très vrai. Peut-être que tout ce qu'on a aimé sur la terre, on le gardera en pensée. Ça veut pas dire que nécessairement il y aura résurrection des animaux, voyez. Donc il faut faire très attention de ne pas prendre à la lettre des paroles qui ont été dites au niveau le plus bas, et les conserver dans leur degré d'importance selon ce que l'Église nous enseigne depuis des siècles.
Oui, c'est un bien précieux que l'Église nous confie aussi, que le chrétien sache utiliser son intelligence et pas être quelqu'un qui ne pense pas.
C'est extrêmement important, puisque, comme disait saint Augustin, l'intelligence suscite la foi, et la foi aussi suscite l'intelligence. C'est-à-dire il y a un va-et-vient entre les deux qu'il faut toujours respecter. Fides querens intellectum, la foi interroge l'intelligence, et réciproquement. Et donc il faut accepter d'avancer pas à pas dans ce chemin de foi, d'espérance et de charité.
Merci frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.